Chapitre 3. Croiserelle ne perd pas une minute. 10 heures sonnaient à la petite église de la place du marché lorsque le commissaire franchit le seuil de la gendarmerie de Viroflay. Il existe chez les gens de la même profession une sorte d'air de famille qui fait qu'ils se reconnaissent tout de suite. Empruntant le trench-coat et la casquette de Croiserelle, un boucher, un horloger, un fonctionnaire, un acteur de théâtre seraient entrés à la gendarmerie que des regards méfiants eussent accueilli son arrivée. Le policier, tout au contraire, fut salué par un gendarme qui s'apprêtait à monter à cheval, et avant même qu'il eût demandé quoi que ce fût, le chemin du bureau du capitaine lui fut indiqué. Sans avoir montré un papier, ni donné une explication, simplement par sa manière de remercier en portant l'index à la visière de sa casquette, Croiserelle fut introduit auprès de cet officier. C'était un homme simple, dont la préoccupation principale était visiblement de faire son devoir et d'éviter les gaffes. Quand il apprit qu'il s'agissait d'un ex-cuisinier habitant le plateau, c'est-à-dire un quartier de petits rentiers de qui on n'avait rien à redouter, il manifesta son contentement. « Cet homme a certainement tué sa femme, peut-être même son fils, » expliqua le commissaire. « Je crois pouvoir affirmer que les corps sont enterrés dans le jardin. » Je voudrais donc que, dans une heure, pas avant, vous mettiez à ma disposition 2 gendarmes et 3 ou 4 terrassiers afin que nous puissions entreprendre immédiatement des fouilles. Je repasserai dans 3 quarts d'heure. Quelques minutes plus tard, croiserai l'entrée dans la plus grande quincaillerie de la ville. Après avoir discrètement décliné sa qualité, il demanda « N'avez-vous pas vendu, au début de janvier, une pelle et une pioche à un certain Marcel Favrin ?» La jeune fille qui avait reçu le commissaire appela son père. Lorsque ce dernier parut, Croiserelle renouvela sa demande sans y changer un mot, terminant comme la première fois par « à un certain Marcel Favrin ». « Une pelle et une pioche, vous dites ?»« Oui. » « Voulez-vous avoir l'amabilité d'attendre un instant? Je vais consulter mes livres. » Après quelques minutes de recherche, le quincailler leva la tête et montrant du doigt une ligne de son livre, « Voyez-vous-même, j'ai vendu une pelle et une pioche le 7 janvier, un jeudi. Ne pouvez-vous pas me dire à qui ?»« Vous m'en demandez trop, monsieur le commissaire. Chaque jour, je sers plus de 100 clients. Sans mon livre, j'aurais été incapable de vous donner la moindre indication. » »« Et l'heure à laquelle cet achat a été fait, vous la rappelez-vous ?»« Exactement, cela m'est impossible. Tout ce que je peux affirmer, c'est que c'est certainement sur la fin de la journée. » Car, comme vous pouvez le voir vous-même, c'est dans les derniers achats que figure celui dont vous me parlez. Sauriez-vous reconnaître une pelle et une pioche sortant de votre maison ? Oui, pourtant je dois vous dire que je ne suis pas seul à vendre ces outils. Ils nous sont fournis, à nous détaillants, par une fabrique de Boulogne-sur-Mer, la maison Chauvois Frères. Je ne peux donc affirmer que les outils que vous me présenterez, même s'ils sont en tout point semblables à ceux que j'ai en dépôt, sortent de mon magasin. En tous les cas, le 7 janvier, sur la fin de la journée, vous avez vendu une pelle et une pioche. C'est certain. Je vous remercie, monsieur. 5 minutes après, le commissaire arrivait à la gare de Viroflay. Il se rendit dans le bureau du chef de gare. Ce dernier, un brave homme à moustache d'une longueur ridicule, apprit à Croiserelle qu'il avait, en effet, sous ses ordres, un employé du nom d'Auguste Delaune. Le policier demanda si on pouvait lui prêter un local afin d'interroger ce jeune homme. « Mais mon bureau, monsieur le commissaire, est à votre disposition, » dit le chef de gare en se levant et en faisant signe aux 2 employés qui travaillaient au fond de la pièce de le suivre. « Vous n'ignorez pas, commença Croiserelle, que Madame Favrin et son fils ont disparu ?»« Non, je ne l'ignore pas, » répondit Auguste Delaune, avec le souci visible de montrer, dès le début, qu'il était le premier à souffrir beaucoup de cette disparition. C'était un grand jeune homme d'une 30aine d'années. La petite moustache noire qui ombrait sa lèvre supérieure ne suffisait pas à vieillir son visage rose et enfantin. On devinait, à sa chemise d'Oxford, à sa cravate de soie, qu'il avait quelque part, dans un vestiaire, un veston d'une autre coupe que celui, usagé, qu'il portait pendant les heures de travail et que, au sortir de son bureau, il devait être un autre homme. Ses mains étaient soignées, ses ongles faits. Une raie bien droite séparait, sur le côté, ses cheveux noirs et lustrés. Malgré la pluie qui tombait depuis l'aube, aucune tache n'était visible sur ses souliers. Il possédait sans doute dans quelques tiroirs une brosse, une peau de chamois, tout ce qu'il fallait pour entretenir sa toilette. « Je voudrais que vous me disiez, » continua le commissaire, « où et quand vous avez vu Madame Favrin pour la dernière fois ?»« Mardi soir, monsieur, son mari était allé au cinéma. » « Mardi 5 janvier, n'est-ce pas ?»« C'est cela. Marie-Louise m'avait demandé de passer devant sa maison vers les 8h30. S'il y avait de la lumière dans le salon, cela signifiait qu'elle était seule. Il y avait de la lumière. J'ai donc sifflé, comme nous avions convenu, et aussitôt après, j'ai longé le verger qui se trouve... Oui, je sais. J'ai longé le verger et j'ai été me poster dans le fond du jardin. » Elle est venue me rejoindre quelques instants après. Elle n'avait pas manifesté l'intention de faire un voyage, n'est-ce pas ? Oh non, monsieur, elle n'avait qu'un désir, divorcer et se remarier avec moi. Pourquoi ne le faisait-elle pas ? À cause de son enfant qu'elle adorait. Que disait-elle de son mari ? Est-ce qu'il la menaçait de violence ? Est-ce qu'il était jaloux ? Pas même, il se désintéressait complètement d'elle, de son fils. Il ne songeait qu'à boire, et tout ce que faisait Marie-Louise le laissait tout à fait indifférent. Elle n'avait qu'à divorcer dans ce cas. Elle préférait attendre. Est-ce qu'elle avait des amis à Viroflay ? Non, personne, c'est-à-dire qu'elle aimait à bavarder avec Madame Gilbert lorsqu'elle l'a rencontrée, c'est tout. Qui est Madame Gilbert ? C'est la mercière de la place, une veuve de guerre. Tout en parlant, tout en paraissant surtout préoccupé des réponses que le jeune homme lui faisait, le commissaire ne l'avait pas quitté un instant du regard, si bien qu'Auguste Delaune, sans s'en rendre compte, s'énervait de plus en plus. Soudain, un train passa. Il détourna la tête pour le voir, avec l'espoir que le commissaire l'imiterait machinalement. Mais ce dernier continua à l'examiner. Alors, n'y tenant plus, le jeune homme se leva comme pour chasser un engourdissement. « Qu'avez-vous ? » demanda Croiserelle, toujours fixant son regard sur le jeune homme. « Rien, rien. J'avais besoin de mouvement. » Auguste Delaune n'osait plus lever les yeux de peur de rencontrer ceux du commissaire. À chaque instant, comme si on lui eût touché la nuque, il se retournait. « À quelle heure avez-vous quitté Madame Favrin ?» demanda Croiserelle, implacable. « À 11h. »« Avant de vous quitter, avez-vous repris rendez-vous ?» Oui. Pour quand ? Pour le samedi suivant. Tous les samedis, son mari partait pour Paris. Le samedi 9 janvier ? C'est cela. Sauf contre ordre de sa part, je devais me trouver à 4h30 devant sa maison et attendre qu'une lumière se fît au salon, car il se pouvait que Marcel, au lieu de s'en aller après le déjeuner comme il en avait l'habitude, partît à la fin de l'après-midi. Samedi, à 4h30, vous vous trouviez donc rue de la Comète, en face de la villa des Favrin. Est-ce que des voisins vous ont vu ? Je ne crois pas. Et alors, que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai attendu, mais la maison entière resta obscure. Marie-Louise n'était pas là. Qu'avez-vous supposé à ce moment ? J'ai supposé que son mari l'avait obligée à l'accompagner à Paris, ou qu'elle avait été appelée auprès de sa sœur. Vous êtes resté quand même ? Oui, je n'ai pas pu me résoudre à m'en aller. Je savais combien Marie-Louise m'était attachée. J'avais le pressentiment qu'elle n'allait pas tarder à rentrer, qu'après tout, il était possible qu'elle fût descendue en ville afin d'y faire quelques achats. Je me cachai dans un renfoncement et guettai son retour. Il faisait un froid glacial. J'apercevais au loin les deux réverbères de la place. Heureusement que la lune, qui venait de se lever, me permettait de voir distinctement la maison de l'endroit où je me trouvais. Vers 6h30, c'est-à-dire après 2 heures d'attente, je crus percevoir des cris d'enfant. Je me souviens d'avoir pensé que ce ne pouvait être le petit Jeannot. Marie-Louise ne le quittait pas une minute, et les soirs où nous nous rencontrions au fond du jardin, il ne se passait pas de demi-heure sans qu'elle s'absentât un instant pour s'assurer que son fils dormait bien. Elle l'aurait laissé seule à la maison ? Non, ce n'était pas possible. Je m'approchai pourtant de la maison pour en avoir le cœur net. Quelle ne fut pas ma surprise en m'apercevant que c'était bien Jeannot qui pleurait ainsi. Il était donc seul. Je commençais à m'inquiéter. Certainement, un malheur était arrivé. Je poussai la grille du jardin, je frappai à la porte, prêt à demander, si le mari m'avait ouvert, un quelconque renseignement. Mais personne ne m'ouvrit, et presque aussitôt, les cris de l'enfant cessèrent. Je résolus d'attendre encore. Je retournai à ma cachette, avec l'espoir de voir surgir Marie-Louise d'un moment à l'autre. 2 heures s'écoulèrent encore, puis, de nouveau, les cris de l'enfant retentirent. Je repassai devant la maison en sifflant, car tout à coup, il m'était apparu que Marie-Louise s'était peut-être endormie. Enfin bref, je rôdai dans la rue de la Comète jusque vers 2 heures du matin. « Vous êtes donc rentré chez vous vers 2 heures du matin ?»« Plutôt 2 heures et demie. » Avec la conviction que Madame Favrin n'était pas chez elle. « Certainement, sans quoi elle m'aurait ouvert. » Le commissaire se leva, regarda l'heure à l'horloge du quai. « Quelle est votre adresse ? » demanda-t-il brusquement. « 14 rue des Minimes. »« Est-ce que vous vivez seul ?»« Non, avec ma mère. »« C'est bien. » Sur ces derniers mots, prononcés d'un ton sec, Croiserelle traversa les bureaux, salua d'un geste le chef de gare, qui, à la manière d'un maître d'hôtel accourant pour demander à ses clients s'ils sont satisfaits, se précipitait à sa rencontre. Il est là un des taxis qui, malgré la pluie, avait finalement consenti à sortir et se fit conduire à la gendarmerie. Il était 11h10. Un petit groupe l'attendait avec impatience. « Allons-y, » dit Croiserelle en allumant une cigarette. Et la bande se mit en marche, non sans fierté. Elle faisait naître sur son passage des murmures, des conversations. Les boutiquiers accouraient sur le pas de leur magasin. Des fenêtres s'ouvraient. Des ménagères, des jeunes filles, des ouvriers se montraient du doigt celui dans le groupe qu'ils connaissaient. Prudemment, à 20 mètres derrière, des garçons suivaient à bicyclette. « Tu vois, disait l'un d'eux, le type au trench-coat et à la casquette grise qui marche devant avec le capitaine ? Eh bien, il paraît que c'est un commissaire de Paris. »